Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Les Portugais étaient appelés aux urnes ce dimanche pour des élections législatives scrutées de près. Le gouvernement socialiste au pouvoir depuis 8 ans n'est pas bien parti. Les sondages qui prédisaient la percée de la droite et aussi de l'extrême droite et notamment du parti Chega, c'est-à-dire ça suffit. Eh bien, ils avaient raison, même si les résultats définitifs ne sont pas encore là. Et on voit qu'il y a effectivement cette victoire de la droite et cette percée de l'extrême droite. Ana Navarro Pedro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes correspondante à Paris de la presse portugaise. Qu'est-ce que l'on peut dire en quelques mots de ces résultats, même si ceux-ci ne sont pas définitifs?
C'est le rire et les larmes au Portugal, parce que d'un côté, il y a un respect de la démocratie, alors qu'on célèbre 50 ans de la chute de la dictature et l'avènement de la démocratie au Portugal. Et en même temps, il y a cette percée énorme du parti d'extrême droite populiste, Chega, qui a 48 députés, qui fait plus d'un million de votes. Qui est maintenant le troisième parti et qui a l'avenir de au moins de la prochaine année électorale, la prochaine année au Portugal entre ses mains. Donc 50 ans après la chute d'une dictature qui a asservi le pays, qui l'a asphyxié, en revenir là, c'est douloureux pour beaucoup de monde.
Mais alors, c'est quand même difficile à comprendre parce que le président António Costa, chef de gouvernement de gauche, était considéré comme étant un exemple de socialisme qui fonctionnait, mets ça entre guillemets, il avait obtenu 41% des voix en janvier 2022.
Tout à fait, d'ailleurs, ces bons résultats économiques tellement inattendus au Portugal depuis 2015, parce qu'il était au pouvoir depuis 8 ans, on a amené un prix Nobel d'économie américain, Paul Krugman, à parler d'un miracle portugais et de proposer qu'on étudie les réformes économiques du Portugal pendant ces années dans les universités américaines, tellement ça semble étonnant. Mais il y a effectivement deux choses. Ce miracle s'est tenu, s'est fait aussi en tenant quand même une politique d'austérité, même s'il a ouvert les cordons à la bourse pour les politiques sociales, le salaire minimum a augmenté de 40%, les pensions de retraite ont augmenté, l'allocation chômage aussi, etc. Mais il faut payer la dette extérieure, on la paye par avance, cette dette contractée en 2011 lors des grandes crises des dettes souveraines, quand le Portugal emprunte 78 milliards d'euros au Fonds monétaire international et à l'Europe. Et donc, le miracle a ses limites. À un moment donné, on n'investit plus dans certains secteurs, et les secteurs qui ont souffert sont la santé, l'éducation publique, et puis aussi un peu la justice. Vous connaissez le même problème en France, santé, éducation publique, sont deux grands, oui, énormes problèmes. Donc, vous nous comprenez aussi,
là, on a des atomes crochus. Absolument. On comprend absolument ce que vous vivez, Ana Navarro,
et
Pedro.
Pour en finir, si vous permettez, il y a eu effectivement toute une série de scandales qui n'ont pas touché, qui apparemment n'impliquent pas le Premier ministre directement, mais qui touchent son entourage et on dit qu'il aurait dû sévir. Deuxièmement, il y a peut-être eu un piège quelque part, parce qu'à un moment donné, la justice portugaise dit « António Costa est impliqué ». Et puis après, il dit « Oups, on a fait une erreur, il y a un António Costa, mais ce n'est pas le Premier ministre, c'est un homonyme ». Donc vous voyez, on est... Bon, c'est passé, mais c'est le théâtre là encore.
Oui, ces affaires de corruption ont terni son mandat.
Oh, énormément. Et à un tel point que je pense que ça ternit aussi sa capacité maintenant à se lancer vers le poste de président du Conseil de l'Europe où il était attendu depuis un certain temps.
En quelques mots, en quoi consistent ces affaires de corruption?
Alors, celle qui a vraiment amené à la chute du gouvernement consiste à un trafic d'influence, plutôt concernant et les mines de lithium au Portugal. Le Portugal a la plus grande réserve de lithium en Europe et une des plus importantes au monde, donc dans l'octroi des licences d'exploitation et dans l'établissement d'une usine d'oxygène vert, d'hydrogène vert.
Bon, mais en tout cas, vous l'avez dit, António Costa n'était pas a priori impliqué. Alors bon, cela, semble-t-il, a fait les affaires du parti d'extrême droite Chega.
Exactement.
Je l'ai dit, ça signifie « ça suffit ». Qu'est-ce qu'il réclame, ce parti?
Alors, il réclame... D'abord, c'est un parti un peu... Enfin, leur chef, leur leader, est un homme un peu opportuniste, André Ventura. C'est un homme qui est un peu caméléon, qui s'adapte selon les mécontentements de la population portugaise et ce sans embâge. Mais il se réclame d'abord d'une civilisation portugaise, d'une identité portugaise. Il se réclame anti-système. Donc, il a lutté lors de cette campagne contre la corruption au Portugal. Il a évidemment mis l'accent sur les failles dans le système de santé publique et de l'éducation nationale, mais il a mis beaucoup d'eau dans son vin par rapport aux élections de 2022, parce que il, à cette époque-là, alors là, il prenait la privatisation des transports publics, la privatisation de l'hôpital public, la privatisation de l'école publique. Il allait très loin, par exemple, contre l'avortement, il disait que les femmes qui pratiquent une IVG devaient leur enlever les ovaires. Donc, voyez un petit peu le personnage.
C'était radical.
C'est radical et c'est un personnage qui n'est pas idiot, au contraire de ce qu'on peut penser parfois. Il a été une très bonne note pour sa licence de droit. À 30 ans, il avait un doctorat d'État et il avait une carrière devant lui en professeur de droit. Et puis, c'est la soif de végétariat, la soif de la lumière des projecteurs qui l'a amené d'abord à être commentateur sportif, ensuite commentateur d'affaires criminelles. Et voilà, il a trouvé la niche. Il a trouvé la niche dans l'électorat portugais qui consistait à être un électorat plutôt populaire, plutôt rural, plutôt conservateur, très mécontent de son état, de son pouvoir d'achat, de la façon dont le pays est gouverné, qui se sentait marginalisé, qui n'avait pas une voix.
Par rapport au passé portugais, puisque le Portugal a connu la dictature, qu'est-ce que Chega dit à ce sujet ?
Il se revendique pas de l'héritage de Salazar, donc le dictateur qui a modelé le pays au XXe siècle. Il ne se revendique pas, mais quand même, en 2022, son mot de campagne, la devise du parti était Dieu, patrie, famille et travail. Donc c'était la devise
nous
de Salazar
rappelle,
et Pétain en une seule,
quelque chose.
N'est-ce pas merveilleux?
Bon, mais a priori, ça n'est pas cette filiation que réclame Chega.
Non, il ne la réclame pas. Et il est très ami en France de Marine Le Pen, mais vous voyez qu'il va beaucoup plus loin, on l'a entendu lors des actualités tout à l'heure, il va beaucoup plus loin dans la revendication de l'identité nationale, ça le rapproche de Reconquête en France, plutôt. Mais c'est un opportuniste et un caméléon, et c'est plus dangereux que quelqu'un qui a des convictions idéologiques.
Est-ce que le centre-droit va gouverner avec ce parti ?
Alors, le chef du centre-droit, Monsieur Montenegro, a dit non, c'est non. Donc, ça, c'est maintenant le mot
donc
qu'on
c'est
rappelle.
Non, non c'est
mais
non. Est-ce que ça va être non jusqu'au bout ?
Ça reste à voir, parce que les caciques du parti derrière lui, en privé, étaient assez mécontents de cette prise de position. Donc, on va voir ce que ça arrive. Vous savez, c'est pas fini les élections. On attend encore. Il n'y a que deux députés qui séparent Parti socialiste et Parti conservateur. Le Parti socialiste a quand même plus de votes que le Parti conservateur pour l'instant. Il reste les Portugais de l'étranger, les consulats.
Ana Navarro Pedro, c'est quand même la fin d'une exception portugaise parce que on expliquait que votre pays était globalement très progressiste, on le disait même allergique à l'extrême droite.
On l'a dit, et c'est surtout les commentateurs français qui le disaient, un peu les Espagnols. Et je connaissant le pays de province à la province, connaissant le Portugal rural, ayant beaucoup parlé avec mes compatriotes, j'avais une opinion différente. Je disais qu'il manquait, qu'il y avait une offre, qu'il y avait une demande pour une voix, une grande gueule qui exprimerait un vote de protestation. Et j'avais raison parce qu'à partir du moment où il est apparu en 2019, il est passé de 1% à 18% en 5 années. Donc il y a puis un vote protestation et puis il y a un vote plus structurel en lui. Et ce vote plus structurel, je pense, c'est les jeunes qui l'ont
décidé.
Les jeunes.
Pourquoi ?
Eh bien, Les études plus approfondies vont le dire, mais moi, je donne quelques pistes. Ces jeunes de 18 à 34 ans, ils ont subi la politique d'austérité au Portugal depuis 2011. Ils ont vu les familles perdre leur logement. Ils ont vu des gens mourir tout simplement d'une grippe parce qu'ils étaient tellement mal nourris qu'ils ne pouvaient pas avoir des défenses immunitaires pour résister. Ils ont vu un pays qui était au bord de l'asphyxie. Ils ont cru, ils ont eu un énorme espoir quand le Parti Socialiste arrivait au pouvoir parce qu'il a donné de l'oxygène au pays. Il y a eu un optimisme qui a servi aussi de levier à cette économie, à ce miracle économique. Eh bien, les espoirs, disons, 8 ans après, ne sont pas concrétisés. Et voilà, donc, une piste à suivre.
Merci beaucoup, Ana Navarro Pedro. Je rappelle que vous êtes correspondante à Paris pour la presse portugaise. Dans quelques instants, nous serons avec Alexandra Delbo. Elle va évoquer les abeilles et leur capacité cognitive.